Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Nous ne sommes plus dans la situation d'avant, il n'y a plus de France-Afrique. La France n'est plus là pour décider à la place des pays africains. Des propos signés Stéphane Le Foll, le porte-parole du gouvernement, lors du point presse de ce matin à l'Élysée, en réponse aux questions sur la crise politique au Gabon. Paris maintient donc sa ligne, ni du côté des partisans d'Ali Bongo, ni du côté de ceux de Jinping, la neutralité, point barre. Cette mise à distance de la crise gabonaise témoigne-t-elle d'un véritable changement dans les relations que la France entretient avec un certain nombre de pays africains, ou bien davantage d'une forme d'embarras, d'hésitation sur la bonne attitude à adopter? Prendre parti, c'est céder à l'ingérence. Ne rien dire, c'est courir le risque de devoir assumer la responsabilité de violences à venir. Un équilibre d'autant plus difficile à trouver que les habitudes héritées du passé pèsent encore leur poids et que la lutte contre le terrorisme, dans laquelle la France est engagée, a un impact direct sur ses relations avec l'Afrique. À moins que les perspectives africaines de développement économique ne permettent peut-être de clarifier, voire de normaliser cette relation. Alors Afrique-France, quelle est la bonne distance? Et nous en parlons ce soir en compagnie d'Amzad Boukhari Abara. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, vous avez écrit des ouvrages sur le Nigeria, sur le Mali aux éditions Debec, et vous avez publié en 2014 aux éditions La Découverte, Africa Unite, une histoire du panafricanisme. Pour discuter avec vous, Jean-Michel Severino, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur du fonds privé Investisseurs et Partenaires. L'objectif de ce fonds, c'est soutenir l'entrepreneuriat africain. Vous êtes l'ancien directeur général de l'AFD, l'Agence française de développement. Vous allez publier d'ici la fin du mois chez Odile Jacob, Entreprenante Afrique. Troisième invité, Christophe Boisbouvier, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Journaliste à RFI, Radio France Internationale. Vous y animez l'émission L'invité Afrique. Vous avez publié l'an dernier aux éditions La Découverte, Hollande l'Africain, l'histoire d'une forme de conversion de François Hollande au continent africain. Puis notre quatrième invité est au téléphone depuis Bruxelles. Il s'agit d'Annie Mutamba. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste en communication et en lobbying. Vous avez fondé Meridia Partners, qui est une agence de conseil spécialisée dans les relations institutionnelles entre l'Europe et l'Afrique. Alors on discutera avec vous notamment lorsque il sera question des relations économiques entre la France et le continent africain, mais ce sera aussi intéressant d'avoir votre point de vue sur peut-être la façon dont les relations plus politiques continuent d'être menées aujourd'hui entre Paris donc et un certain nombre de capitales. Alors, puisque c'est l'actualité gabonaise qui nous a donné l'idée de faire cette émission, je voudrais peut-être d'abord qu'on y revienne un instant avec ce que disait alors et Stéphane Le Foll aujourd'hui et Manuel Valls avant-hier sur le sujet. Manuel Valls qui suggérait un nouveau décompte, disait bah voilà, nous on va soutenir cette initiative-là, et qui réaffirmait la priorité absolue pour lui de la France, à savoir la sécurité des ressortissants français au Gabon. Est-ce qu'on peut dire, Christophe Boisbouvier, qu'en la matière, le Premier ministre fait ce qu'on pourrait qualifier de service minimum?
Quand Stéphane Le Foll dit « il n'y a plus de France-Afrique, on ne s'ingère plus », c'est un discours très politique qu'on a du mal à croire, parce que les relations entre la France et le Gabon sont tellement fortes depuis tellement longtemps. Il y a 12 000 Français au Gabon. Il y a de nombreuses entreprises privées françaises qui sont impliquées dans le pétrole, dans le manganèse, dans le bois, dans l'eau, l'électricité, enfin, etc., etc. Les liens sont tellement forts que si demain la France dit, par exemple, Ali Bongo a gagné ou Jinping a gagné, la France sait très bien que ça va avoir un effet très, très important sur la suite des événements politiques au Gabon.
Mais justement, ne pas le faire, est-ce que ça n'est pas le signe qu'il y a une véritable volonté de sortir justement de cette relation déséquilibrée qui consiste à mettre Paris dans la position d'être en mesure de choisir à la place peut-être des Africains qui va les diriger?
Ce que disent les gens de Jinping, qui pour l'instant sont persuadés qu'ils ont gagné et qui se battent pour essayer de faire passer leur victoire dans la réalité, ils disent que si François Hollande disait officiellement voilà, il y a eu tricherie, Jinping a gagné, ça aurait un effet sur les les événements. Donc à la limite, l'opposition qui crie habituellement à la France-Afrique, elle demande de l'ingérence française. C'est tout le paradoxe aujourd'hui. Et de fait, François Hollande est dans une situation très compliquée parce que s'il en dit trop, il risque de provoquer des clashs. S'il en dit pas assez, il risque aussi de provoquer des clashs. Donc il est obligé de faire l'équilibriste et c'est très compliqué. Pour l'instant, il réussit un petit peu à préserver la position de la France, mais c'est pas gagné sur la distance.
Est-ce que vous considérez, Hamzat Boukhari Yabara, que pour l'instant, justement, François Hollande et la diplomatie française parviennent à peu près à tenir cet équilibre délicat sur la question gabonaise?
Non, je crois que ça a été rappelé. Le Gabon, c'est un pays qui est très important. C'est le pays où il y a eu la première intervention militaire française après les indépendances. C'est le pays où l'indépendance avait été liée aux accords de coopération. Donc c'est un pays qui représente énormément pour les intérêts français. Donc je crois que François Hollande s'inscrit un peu dans un continuum depuis le début finalement de la Ve République et qui correspond à ce système de France-Afrique. Et que sa position aujourd'hui est extrêmement ambiguë. Et elle est rendue ambiguë aussi par la position des dirigeants africains, notamment celle d'Idriss Déby en tant que président de l'Union africaine, qui est chargé de mener une médiation et qui est lui-même empêtré dans des problématiques électoralistes. Donc on a aujourd'hui, je pense, une difficulté de la part de la France à trouver cette bonne distance. Et je dirais qu'il y a du côté africain une nécessité de trouver la bonne focale pour analyser les positions de la France.
Mais ça pourrait être quoi, Hamzat Boukhari Yabara, un comportement qui ne soit pas ambigu de la part de la France à l'égard du Gabon? On a l'impression que quelle que soit finalement l'attitude ou le choix qui sera fait, il fera l'objet de critiques, soit parce qu'on en fait trop, soit parce qu'on n'en fait pas assez.
Alors, le Gabon avait été la première intervention militaire française en Afrique, mais avant il y avait eu des interventions par omission. C'est-à-dire que le fait que des fois la France n'intervienne pas est vu également comme un accord tacite à un certain nombre de choses. Donc il y a effectivement une ambiguïté à lever. Je pense que la France doit laisser le temps à la diplomatie africaine de se mettre en place. Il est très important que l'on comprenne que les relations internationales du Gabon ne se limitent pas à celles avec la France. Et du coup, la classe politique gabonaise doit aujourd'hui prendre ses responsabilités pour trouver une solution politique à cette situation.
Sauf que, comme le rappelait Christophe Boisbouvier, Jean Ping, lui, appelle justement la France à intervenir directement. Quel est votre point de vue à vous, Jean-Michel Severino?
Moi, je n'ai qu'un point de vue personnel d'amis de l'Afrique et d'Africains lui-même. C'est le continent où je suis né, où j'ai grandi, où j'ai passé l'essentiel de ma carrière professionnelle. Et moi, personnellement, je suis assez heureux de la position que prend le gouvernement français aujourd'hui. Je crois que c'est effectivement une situation compliquée. Vous avez rappelé très bien dans votre introduction les termes des contradictions. La France ne choisit ni sa géographie, ni son histoire, ni ses relations économiques globales. Et à l'intérieur de ça, le gouvernement doit faire un choix compliqué qui est à la fois de favoriser une autonomisation de la scène politique gabonaise, qui est quelque chose qui est, je crois, assumé comme recherche, et en même temps protéger des intérêts humains légitimes de ses ressortissants, des intérêts économiques qui font partie des intérêts de la France. C'est un équilibre difficile. Je crois que le gouvernement, pour l'instant, il parvient bien. Du reste, je voudrais peut-être dire que, à mon avis, c'est une recherche qui s'inscrit pas simplement dans le cadre du quinquennat de François Hollande, mais qui remonte au traumatisme rwandais, qui sonne le glas d'une certaine forme d'intervention française sur le continent. Et à partir de ça, le gouvernement Jospin initie un repositionnement de la France qui ne va jamais être contredit par aucun des gouvernements qui y suit, qui va simplement être mis en place d'une manière, je dirais, avec des ajustements progressifs. Un repositionnement qui est à la fois de ne pas laisser, de conserver un droit à intervenir quand des intérêts fondamentaux sont atteints, et en même temps la recherche de l'inscription de la solution des conflits et des problèmes dans un cadre africain proprement dit, ou international, européen ou onusien.
Et d'ailleurs, Jean Ping, qui était le candidat à la présidentielle au Gabon face à Ali Bongo, joue sans doute aussi sur ce traumatisme rwandais. Écoutez ce qu'il disait à RTL il y a quelques jours de cela. Nous lançons un appel à tout le monde et en particulier à la France, parce que nous avons des liens, des relations séculières. Le peuple gabonais est en danger. Il ne faut pas qu'il n'y ait non-assistance à peuple en danger. Est-ce que ça embarrasse la France? En tout cas, ça la met dans une situation un peu compliquée, Christophe Boisbouvier, de se dire, bah voilà, il ne faut pas non plus que par la suite on soit accusé de ne pas être intervenu, d'avoir laissé des violences se développer. Jean Ping parle même d'un risque de génocide.
Alors je ne sais pas si on en est là au Gabon, parce que les graves événements qui ont eu lieu la semaine dernière, pour l'instant, ils sont terminés. C'est-à-dire que depuis le week-end dernier, la situation s'est stabilisée sur le plan des violences. En revanche, il y a peut-être non-assistance à démocratie en danger. Quand Jean-Michel Severino dit que le tournant, c'est 94, il y a peut-être un... alors c'est vrai, c'est la posture Jospin, ni ingérence, ni indifférence. Il essaye de trouver une distance moyenne, on va dire, entre la France et l'Afrique. À l'époque, François Hollande est le premier secrétaire du parti au pouvoir, et il est totalement en phase avec lui, et on peut penser...
Sauf qu'à l'époque, il y a Jacques Chirac qui est à l'Élysée.
Mais voilà, vous avez raison. Mais on peut dire que la doctrine Jospin, Hollande essaye de l'appliquer aujourd'hui, ni ingérence ni indifférence, avec beaucoup de difficultés. Je crois quand même qu'il y a une différence entre il y a 5 ans et maintenant, c'est-à-dire qu'il y a la dernière présidentielle au Gabon, on est en 2009, le pouvoir français de l'époque, Nicolas Sarkozy, soutient franchement un des deux candidats, c'est-à-dire l'actuel président, Ali Bongo Ondimba, via notamment un avocat franco-libanais, Robert Bourgi. Voilà, il le soutient et il s'en cache à peine d'ailleurs. Il y a plein d'anecdotes pour étayer cette explication. Quand François Hollande arrive au pouvoir en 2012, il veut essayer un peu d'alternance, un peu de rupture avec la France-Afrique, comme il l'avait promis quand il était candidat. Et pour lui, le Gabon, c'est un exemple. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le Gabon, c'est le cœur de la France-Afrique. C'est le cœur de cette relation incestueuse entre Paris et certains chefs d'État africains du temps d'Omar Bongo, le père d'Ali Bongo. Et du coup, aujourd'hui, au fond de son cœur, je suis persuadé que François Hollande, il veut l'alternance. Et ce que dit le Parti Socialiste dans un communiqué le lendemain du vote, c'est-à-dire le 28 août dernier, qui prend parti déjà pour le candidat Ping, au fond, c'est une façon de dire tout haut ce que François Hollande pense tout bas.
Il veut ce changement, mais en même temps, il a du mal à s'en défaire. Vous écrivez dans votre livre, Christophe Bois-Bouvier, Hollande et l'Afrique, c'est un peu l'histoire d'un socialiste qui se méfie depuis toujours de la vieille jument franco-africaine, qui en prend les rênes en croyant l'adopter et qui finit par se laisser conduire par elle. Comme on n'a pas encore entendu Annie Moutamba sur notre discussion, depuis votre poste d'observation Annie Moutamba à Bruxelles, est-ce que vous sentez encore ce poids de la France-Afrique, de cette histoire si particulière qu'a pu avoir la France avec un certain nombre de pays africains ?
Alors tout d'abord, merci d'avoir précisé que je ne suis pas une spécialiste des relations franco-africaines, mais effectivement, le poids de la France-Afrique, il est toujours assez présent et il est assez clair. Pour moi, je surveille donc ces relations franco-africaines depuis Bruxelles, vous l'avez dit, donc d'assez loin. Mais il ne faut pas oublier que l'influence de la France en Afrique, elle s'exerce aussi à travers l'Union européenne. Et ça lui donne aussi, évidemment, un canal de communication et d'intervention qui peut s'avérer assez pratique dans certaines situations, dont celles que nous connaissons en ce moment au Gabon. Donc les positions de Hollande l'Africain, moi je les vois essentiellement au regard des positions de Hollande l'Européen. Parce qu'il y a un certain nombre de convergences assez claires entre la politique africaine et la politique européenne de la France sous François Hollande. C'était le cas aussi d'ailleurs avec Nicolas Sarkozy. On peut dire aujourd'hui, la politique africaine de la France, elle s'évalue aussi à travers la politique africaine de l'Europe. Il ne faut pas l'oublier. Ça s'évalue aussi à travers le positionnement de la France dans le monde et le rôle que l'Europe veut se donner dans le monde et qui a d'ailleurs fait l'objet récemment d'une analyse et d'une redéfinition à laquelle la France a évidemment largement, très largement contribué. Donc il y a des convergences évidentes entre tout ça. Ça donne une grille de lecture, une parmi d'autres, pour comprendre justement cette hypothétique bonne distance à adopter entre la France et l'Afrique.
Est-ce que ça veut dire, Annie Moutamba, que même quand on est à Bruxelles, on ne peut pas s'abstraire des relations et de la politique, on va dire, et de la diplomatie, y compris quand on est plutôt sur le terrain économique ?
Bien sûr. Écoutez, si je reprends à nouveau l'exemple du Gabon, qui nous préoccupe depuis plusieurs jours, si vous lisez de temps en temps les communiqués de la haute représentante des affaires étrangères de l'Europe, en tout cas quand il s'agit de l'Afrique francophone, et le dernier communiqué d'ailleurs date de lundi dernier et est consacré au Gabon, les positions prises et même parfois les éléments de langage sont en parfait alignement avec le discours officiel français. Alors même que, comme vous le disiez, il y a aussi d'autres éléments, notamment vraiment économique à prendre en compte. Il arrive aussi, c'est plus rare quand même, que l'Europe soit tenue de dire tout haut ce que la France dit tout bas à Paris.
Alors parmi les éléments de langage, il y a ce qu'on a rappelé, cette prise de distance, en tout cas dans les propos par rapport à la France-Afrique. J'aurais pu également citer Jean-Marc Ayrault, rappelons que c'est notre ministre des Affaires étrangères, qui le 2 septembre, toujours à propos du Gabon, mais là on élargit vraiment à la question des relations entre la France et l'Afrique, qui disait « la France est partenaire des pays africains, mais n'a pas vocation à s'ingérer dans leurs affaires internes ». Hamzat Boukhari Yabara, est-ce que vous pensez qu'on est simplement là dans du langage diplomatique, ou est-ce qu'il y a quand même une forme de sincérité, une réelle volonté de s'éloigner de cette relation, mais que le poids de l'histoire, le poids de la France-Afrique finit toujours un peu par rattraper la France et peut-être aussi d'ailleurs les pays africains, parce que pour avoir une relation, il faut être toujours de...
Oui, ce poids de l'histoire, c'est 60 ans de mauvaises habitudes cumulées, et je crois qu'on est là face à un élément de langage. C'est-à-dire qu'il y a d'autres acteurs européens qui ne seraient pas si rapides que la France ne l'est pour reconnaître un certain nombre de gouvernements. L'Angleterre, par exemple, attend régulièrement que les gouvernements soient reconnus par un certain nombre de pays africains d'abord, avant de les reconnaître. Et là, il y a une précipitation, je crois, de la France qui pose un certain nombre de problèmes. D'autre part, il y a aussi une autre échelle qu'il faut avoir à l'œil, c'est le fait que la France a réintégré l'OTAN et que dans le cadre de l'OTAN, il y a un redéploiement militaire sur le continent africain qui fait que la France travaille avec les États-Unis et que la question donc du dispositif militaire français se pose. Mais dans le cas du Gabon, on est face à deux candidats dont aucun des deux n'a réellement l'intention de remettre en cause les intérêts français, que cela soit la base militaire ou le franc CFA. Donc on a plutôt l'impression que Ping fait effectivement la cour à la France et que Bongo est un peu déçu, comme Houphouët Boigny avait été déçu au moment où la France lui avait imposé une certaine forme d'indépendance. Donc on est encore effectivement dans des relations incestueuses qui posent un certain nombre de problèmes et dont le peuple gabonais finalement est le premier à payer le prix, puisque je pense que le peuple gabonais a montré qu'il a une forte personnalité, qu'il est parfaitement prêt pour la démocratie, mais que la classe politique ne lui offre pas justement les moyens d'exercer ses prérogatives.
D'ailleurs, est-ce que c'est seulement la classe politique française, Jean-Michel Severino, qui a du mal à s'abstraire de cette relation, ou bien est-ce que c'est aussi la classe politique africaine, même si c'est un peu compliqué de généraliser, évidemment, vu l'ampleur et l'étendue du continent africain?
Oui, mais je crois que vous, là aussi, vous l'avez très bien dit, il faut être deux pour danser. La relation franco-africaine, elle est faite d'initiative des uns et des autres. Les relations et cette relation, elle est constituée de différentes strates. Il y a de nombreux parcours individuels, il y a juste des relations amicales, des relations familiales qui sont créé à l'université, dans des carrières professionnelles. Il y a des relations économiques qui sont faites à travers la participation à des projets, à des entreprises. Il y a des relations qui sont moins avouables, qui sont liées à des circuits d'argent parfois occultes. Il y a le travail des lobbyistes et des hommes et des femmes d'influence qui est de certains porteurs de valises. Tout ça constitue des trames extrêmement diverses. Certaines sont saines, c'est juste des relations humaines, affectives, historiques, d'intérêt économique, dont il n'y a pas grand-chose de particulier à dire, qui serait dans tous les points du monde. Et puis il y a des choses qui sont beaucoup plus sombres, beaucoup plus pathologiques. Et c'est assez d'ailleurs difficile de démêler l'un et l'autre, parce que la densité de la relation et son intensité est telle que l'un et l'autre sont comme deux faces claires et obscures d'une réalité assez, assez indissociable. Et de ce fait, je suis pas tout à fait optimiste sur le fait que, par exemple, la croissance économique africaine va complètement régler ces sujets, parce que la croissance économique africaine, elle exacerbe aussi des appétits, elle amplifie des intérêts particuliers, elle fait circuler plus d'argent dans les circuits, et donc elle génère aussi une modernité, je dirais, de cette relation, de ces caractères un peu sombres.
Christophe Babouvier.
Moi, je crois que cette affaire gabonaise, elle arrive à un moment important pour Hollande, c'est la fin de son quinquennat. Et il est en train de constater qu'est-ce que j'ai fait de mes 5 années, et notamment en politique étrangère et en politique africaine. Et en politique africaine, bon, il y a une réussite qui reste d'ailleurs discutable, c'est l'affaire Serval, l'affaire malienne, c'est-à-dire le recul des djihadistes en Mali, mais pour le reste, c'est la continuité avec Sarkozy.
À propos duquel, hein, quand il allait à Tombouctou, il disait, voilà, c'est le moment le plus important de ma vie politique.
C'est ça, hein. Absolument. Il est dans la continuité avec Sarkozy sur pratiquement tous les sujets de politique étrangère et notamment de politique africaine. Et je pense que le Hollande, qui va peut-être entrer en campagne dans 3 mois, aurait bien aimé pouvoir dire, vous voyez, au moins sur la France-Afrique, il y a des choses qui ont bougé. Il y a 2 dinosaures qui sont tombés, au Burkina Faso, Blaise Compaoré, et au Gabon, Ali Bongo Ondimba. Et c'est ça le sens de ce communiqué du Parti Socialiste du 28 août dernier. Le problème de Hollande, c'est qu'il a cette réelle politique qui fait qu'il a 12 000 ressortissants au Gabon, il a des intérêts économiques et commerciaux considérables au Gabon, et que s'il va trop loin contre Ali Bongo Ondimba, mais si celui-ci réussit à garder son fauteuil grâce notamment à la Cour constitutionnelle, à ce moment-là, il va se retrouver dans un corner et il ne pourra plus en bouger. Donc il n'ose pas aller jusque-là et il est dans ce débat entre l'éthique et la réelle politique, et pour l'instant il n'arrive pas à s'en sortir.
Christophe Boisbouvier, ce qui aura marqué le quinquennat de François Hollande en matière de politique étrangère, c'est la menace terroriste, avec justement cette relation particulière avec un certain nombre de pays africains qui, dans le livre, vous dites, ça a aussi permis à la France de justifier son statut de grande puissance et son siège de membre permanent du Conseil de sécurité à l'ONU. Mais est-ce qu'en tout cas cette menace-là, qui existe aussi sur le continent africain, a contribué peut-être à modifier la relation entre la France et l'Afrique, et peut-être à la rééquilibrer un peu? C'est-à-dire parce que la France, d'un point de vue stratégique, a besoin aussi de l'aide d'un certain nombre de pays africains.
Ben, si vous voulez, du temps de Jospin, on disait les interventions françaises en Afrique, c'est terminé, la France ne sera plus le gendarme de l'Afrique. Mais est arrivée une nouvelle réalité qui est le djihadisme, qui se conjugue avec un fait qu'il faut bien dire, c'est que les Africains n'ont pas à l'heure actuelle les moyens de se défendre contre la menace djihadiste. Et de ce point de vue, la France reste le gendarme de l'Afrique, mais avec une nouvelle dimension politique. C'est qu'aujourd'hui, la France, quand elle intervient en Afrique, elle est appelée par les Africains. Je crois qu'il faut quand même le dire. Donc, de ce point de vue-là, la France réussit une mue, si vous voulez, c'est-à-dire elle réussit à rester le gendarme de l'Afrique sans continuer à en subir le poids politique qu'elle en subissait à l'époque où, en effet, elle intervenait au Gabon militairement pour sauver le régime de Bongo Père. Aujourd'hui, on n'est plus dans la caricature de la France-Afrique, on est dans quelque chose de plus subtil, où la France maintient ses positions militaires et essaye de maintenir ses positions économiques, Jean-Michel Severino le dirait beaucoup mieux que moi, elle a perdu la moitié de ses parts de marché depuis 10 ans, sans qu'on puisse continuer de l'accuser de néocolonialisme. C'est plus subtil que du temps de Jacques Chirac.
Vous êtes d'accord avec ça, Hamzat Boukhari Yabara?
Pas forcément, parce que dans le cas gabonais, on sent qu'une intervention française serait en fait une ingérence dans la politique intérieure du Gabon. Le Gabon n'est attaqué par aucun pays, donc il y a, je pense, un besoin...
Pour l'instant, il n'est pas question que la France intervienne au Gabon.
Je pense qu'il y a néanmoins un besoin de clarification sur le sens des différentes interventions qui ont pu être menées. D'autre part, je crois que la France a accéléré dans un certain nombre de cas les calendriers électoraux, que cela soit au Mali, au Centrafrique, dans un sens qui n'était pas favorable, je pense, à la reconstruction de ces États qui, à mon sens, ne peuvent plus tenir tel quel. On a des États africains issus des indépendances qui se sont construits sur ce modèle de république, de 5e république, avec des régimes présidentiels forts, qui, à mon sens, ne sont pas adaptés à des sociétés qui ont besoin de modèles parlementaires. Donc il y a aussi, je pense, un travail à faire sur tout ce qui touche en fait à la construction des États, à la reconstruction des systèmes politiques sur lesquels aussi bien les États africains que la France doivent s'interroger. Je pense que tant qu'on reste dans une 5e république, on aura du mal à se débarrasser de ces relents de France-Afrique. Donc il est important, peut-être, dans ce débat par rapport au présidentiel en France, de poser la question de la 6e République ou d'une autre forme de république, de gouvernance, de gestion de ce type d'affaires. Et cela nécessite, je pense, une véritable rupture dans le projet que l'on veut mettre aussi bien en place ici en France que dans les différents États africains.
Vous nous donnez une idée pour un futur débat dans le cadre de la campagne présidentielle. Alors, allons peut-être maintenant à présent un petit peu plus en avant sur la question des relations économiques, puisque c'est davantage votre secteur, Annie Moutamba. Est-ce qu'on pourrait se dire que justement, avec les réserves qu'on a déjà un tout petit peu entendues là depuis le début de l'émission, mais que malgré tout, c'est par le biais de l'économie que les relations entre la France et l'Afrique pourraient, si ce n'est se normaliser, mais en tout cas évoluer de manière différente de ce qu'elles étaient jusqu'à présent.
Alors, ça dépend de quelle relation on parle et de quelle Afrique on parle. Parce que jusqu'à présent, on parlait essentiellement de l'Afrique francophone. Et donc, les relations privilégiées que la France entretient avec le continent le sont évidemment plus souvent avec l'Afrique francophone. Je ne dis pas que la prise de parole et l'action française qui en découle se limitent à cela. Mais c'est évidemment sa première zone d'influence. Et ça, c'est clair dans le débat que nous avons maintenant. On parle finalement de 26 pays. Alors, ce n'est pas rien, ce n'est pas négligeable. Mais une fois qu'on a fini de parler de 7 Afrique francophone, on n'a toujours pas évoqué le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie notamment, qui sont parmi les incontestables locomotives économiques du continent. Donc pour en revenir à cette Afrique francophone, ce qui est étonnant de mon point de vue, c'est que les liens historiques et culturels qu'entretiennent la France avec l'Afrique ne se traduisent pas forcément par de solides relations économiques, puisque en 2014, notamment, les exportations françaises vers l'Afrique se sont élevées à seulement 6% du montant total des exportations françaises. Donc c'est pour moi un chiffre que je trouve assez étonnant, eu égard justement à cette dynamique française vers l'Afrique. Et
comment est-ce que vous expliquez ça, Annie Moutamba ?
À mon avis, cette distance ou cet écart économique et la bonne distance finalement que la France pourrait entretenir par rapport au continent peut être arbitrée par deux éléments à venir. Il y a les conséquences du Brexit, qui fait partie de l'actualité maintenant. Il y a aussi la rivalité franco-allemande qui se joue depuis plusieurs années sur le terrain africain et dont on ne parle pas beaucoup. On parle beaucoup de la concurrence chinoise, on parle beaucoup moins de l'Inde, du Moyen-Orient. On parle certainement beaucoup moins des voisins directs de la France, dont l'Allemagne, évidemment, qui a une stratégie africaine depuis 2010 extrêmement offensive, qui donne l'exemple en matière d'industrialisation, sécurité énergétique, intégration économique. Il y a l'Italie également qui a renforcé tout récemment sa stratégie subsaharienne avec une dynamique fortement commerciale et beaucoup plus économique. Les Pays-Bas, dont on ne parle pas beaucoup non plus, mais qui jouent un rôle fondamental dans les relations politico-économiques entre l'Union européenne, en tout cas, et l'Afrique du Sud, qui est la première économie du continent. La Suède, la Pologne, bon voilà. Il y a énormément de pays qui développent, qui peaufinent de leur côté leur attractivité économique par rapport au continent africain. Et quand tous ces intérêts se retrouvent autour d'une même table dans les instances européennes, avec une question africaine à l'agenda, quelle qu'elle soit, la relation franco-africaine, finalement, est loin d'être proéminente.
Alors, je voudrais savoir si Jean-Michel Severino partage le constat que vous faites, Annie Moutamba. Jean-Michel Severino.
Alors, sur la modestie des intérêts économiques français en Afrique, c'est tout à fait exact. Et c'est une nuance que je mettrai peut-être au propos de M. Babouvier tout à l'heure. À l'échelle du Gabon, la présence française est importante. Maintenant, et c'est vrai que c'est sûr, il y a quelques sujets, il y a un sujet sensible qui est les approvisionnements pétroliers, mais même les approvisionnements pétroliers français d'origine du Gabon sont très modestes. Et les intérêts économiques de la France au Gabon, comparés à l'ensemble de l'économie française, sont microscopiques. Donc on n'est pas du tout en train de jouer une grande partie de notre commerce extérieur, nos investissements. Et en fait, ce qui s'est passé à partir des années 75-80, l'année de l'ajustement structurel, c'est que le secteur économique français a déserté le continent. Les grandes entreprises françaises se sont mobilisées pour conquérir l'Europe. C'est là que la France a mis toute son énergie, conquérir le marché allemand, conforter ses positions en Espagne, en Italie. Et quand il s'est agi de grands investissements, les entreprises françaises ont rêvé Asie. Lorsque le mur de Berlin est tombé, l'économie française s'est tournée massivement vers l'Europe de l'Est et a essayé d'y avoir sa part du gâteau. Donc depuis 40 ans, l'Afrique n'est plus sur l'écran radar de l'économie française, il faut le dire très clairement. Et on peut voir les pertes de marché récentes dans les 10 dernières années ou les 15 dernières années comme étant le fait que ce secteur économique français qui ne regardait plus l'Afrique a été pris à dépourvu par la reprise de la croissance économique française africaine. Ouais. Ne disposait plus des pools d'expertise en interne pour être capable de reconquérir les marchés. Et donc le réinvestissement vers l'Afrique s'est fait avec beaucoup de difficultés, beaucoup de lenteur, même si on voit aujourd'hui une très nette accélération. Et si vous prenez les principales entreprises françaises du CAC 40, toutes ont aujourd'hui une stratégie de réinvestissement en Afrique.
Mais je rappelais tout à l'heure, Jean-Michel Severino, que vous avez dirigé l'Agence française pour le développement. Est-ce qu'il ne faut pas voir dans cette distance ou dans cette modestie, disons, des relations économiques entre la France l'Afrique, et c'est d'ailleurs une hypothèse, enfin une question que je vous soumets à vous quatre, le fait que peut-être la France aurait davantage privilégié justement l'aide au développement par rapport à l'Afrique, qui est toujours une relation, on va dire, verticale, plutôt que de considérer les pays africains comme de véritables partenaires économiques.
Non, je crois tout simplement que, pour le coup, les grandes entreprises françaises et le secteur bancaire français a considéré en fait qu'il n'y avait ni les marchés ni les opportunités d'investissement en Afrique, est allé vers autre chose. Alors aujourd'hui, je crois que c'est devenu un sujet important parce que pour la France et d'intérêt, parce que la croissance économique française africaine s'est redressée, même si la chute des cours des matières premières affecte les performances sur moyenne ou sur longue période, cette croissance restera significative. Il est redevenu extrêmement important pour l'emploi, pour le PIB français, de réarticuler la croissance de notre pays à une locomotive émergente qui va jouer un rôle très considérable dans le 21e siècle. Et je m'arrêterai là. Je crois que c'est aussi très important pour les entreprises françaises d'être autant présentes dans la partie anglophone que dans la partie francophone, bien entendu.
Alors, trois autres invités veulent intervenir. Annie Moutamba.
Oui, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit sur l'investissement de l'espace anglophone pour la France comme opportunité effectivement pour aller chercher des opportunités d'affaires et de croissance. Mais si on se souvient de fin 2013, lorsque le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, est venu en Europe, il est allé en Allemagne. Et il a déclaré que l'Allemagne était le partenaire le plus important de son pays à l'échelle internationale. Évidemment, ça en a étonné plus d'un, et essentiellement à Paris, puisqu'il s'agissait de quelques semaines à peine après l'intervention française qui lui a permis d'accéder au pouvoir. Donc l'Allemagne, elle est très présente comme concurrent très sérieux en Afrique francophone et anglophone subsaharienne. En matière de sécurité, comme sur le plan du commerce international, le message allemand en Afrique, il est très clair, il est parfaitement assumé. La France est le mauvais partenaire. Et ce message, il se traduit en action. Donc pour le gouvernement Merkel, les liens historiques de la France, sa connaissance de la région, etc., ça en fait le leader le plus approprié pour une intervention militaire, comme on l'a vu au Mali notamment. En revanche, pour stabiliser à long terme, pour appuyer les acteurs politiques, etc., et surtout pour les intérêts économiques, la France devrait faire un pas de côté, justement à cause de ce même bagage historique. Donc, finalement, il y a un nouvel écosystème qui est mis en place, dont les dirigeants français sont parfaitement conscients. Et on se rend compte que dans ce nouvel écosystème, le bagage historique, la proximité culturelle dans certains cas, les vieux réflexes, les réseaux du XXe siècle, même s'ils sont revisités, même s'ils sont remaniés, ne sont pas forcément un atout.
Christophe Babouillet.
Ce que dit Annie Moutamba est d'ailleurs lourd de sens dans les relations franco-allemandes, parce que tout ça est évidemment très juste, mais ça crée des crispations à Paris, parce que l'opération Serval, c'est plusieurs dizaines de soldats français qui ont été tués. Hein. Il y a du sang français qui a coulé en Afrique. La reconquête de Tombouctou, de Gao, qui est occupée par les djihadistes, c'est pas seulement pour les Maliens, c'est pas seulement une bonne nouvelle pour les Maliens, c'est aussi une bonne nouvelle pour les Européens. Hein. Qu'il n'y ait pas un foyer djihadistes au cœur de l'Afrique, au cœur du Sahel. Donc aussi une bonne nouvelle pour les Allemands. Du coup, les Français disent, mais attendez, on est en train d'envoyer des jeunes soldats se faire tuer pour d'autres Européens qui vont tirer profit de ce que nous, les Français, nous faisons. Il y a d'ailleurs une vraie polémique actuellement, enfin depuis deux ans, entre Paris et Berlin, sur qui paye la note hein, des opérations extérieures françaises en Afrique. Au-delà de ça, je dirais que quand Jean-Michel Severino dit que le Gabon et peut-être plus globalement un certain nombre d'anciennes colonies françaises ne comptent plus pour grand-chose dans l'économie française. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Notamment au niveau de ces grosses entreprises, du CAC 40 par exemple, comme Total, comme Eramet, comme Rougier, comme Veolia, etc., comme Air France, qui elles ont des intérêts très concrets, comme Bolloré, alors, peut-être pas au Gabon mais ailleurs, ont des intérêts très concrets sur des pays comme cela, des positions très fortes. Et je peux vous dire que le jour où Ali Bongo a adressé à Total un redressement fiscal considérable, il y a 3 ans, aussitôt, le regretté Christophe de Margerie est allé faire le siège du bureau de François Hollande pour lui demander d'intervenir auprès d'Ali Bongo pour faire supprimer ce redressement fiscal. C'est-à-dire que le président français, quel qu'il soit, qui s'appelle Sarkozy ou Hollande ou demain je ne sais qui, est harcelé en permanence par les grosses boîtes françaises pour maintenir les positions françaises en Afrique. Et ça, c'est un des paramètres dont on ne parle pas beaucoup.
Et c'est ce qui peut expliquer justement qu'il y ait cette difficulté à avoir des relations de partenaire à partenaire sur le terrain économique.
Oui, bien sûr, parce que vous avez nécessairement une imbrication entre le militaire, le politique et l'économique. Et quand François Hollande, par exemple, intervient, on parlait du Nigeria tout à l'heure, quand François Hollande met le paquet pour aider le général Bouhari à lutter contre Boko Haram, c'est aussi pour en retirer des dividendes économiques et commerciaux et pour essayer de prendre des marchés aux Britanniques ou aux Allemands sur l'Eldorado que représente le Nigeria.
Abdelaziz Boukhari Yabara, je voudrais vous citer une phrase prononcée il y a 2-3 ans dans Alternative économique par l'ancien ministre de la prospective du Togo, Kako Nubukko, qui disait « L'acceptation d'un partenariat économique, quelque légitime qu'il puisse paraître, ne doit pas épuiser l'impératif pour l'Afrique de se doter d'une vision endogène de son développement à long terme. » Est-ce que c'est ce qui manque aujourd'hui aux Africains, c'est-à-dire de réfléchir à leur développement sans passer peut-être par cette relation compliquée, évidemment, avec la France notamment?
Alors, dans sa définition de la France-Afrique, François-Xavier Verschave, il expliquait qu'elle repose sur deux rentes, l'aide publique au développement et les matières premières. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup à creuser à ce niveau-là, sur tout ce qui passe à l'extérieur du radar. D'autre part, je crois que cette notion de partenariat, comme on peut l'avoir dans les accords de partenariat économique, repose plus sur du chantage vis-à-vis des dirigeants africains. Donc, là aussi, cela pose la question de la réelle souveraineté des peuples, de la réelle possibilité pour les Africains de choisir leurs partenaires. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a, enfin, ça a été très bien rappelé, le rôle des multinationales dans toute cette situation. Mais je crois qu'il y a aussi la nécessité peut-être de repenser l'agenda intellectuel africain qui est en train de se modifier sur le continent. Il y a une Afrique en dehors du champ que connaît la France qui est extrêmement dynamique, qui échange avec cette vieille Afrique francophone, entre guillemets. Et je crois que tout cela est en train peut-être de dépasser ce que la France imaginait du continent et qu'on voit se lever de nouvelles volontés, de nouveaux projets.
Et quand vous écrivez par exemple une histoire du panafricanisme, est-ce que c'est aussi dans l'idée peut-être d'en faire pas seulement quelque chose qui appartient au passé, mais pourquoi pas une piste pour le développement, on va dire politique de l'Afrique ?
Oui, c'est bien évidemment une piste. Disons qu'il existe des solutions. Maintenant, reste à trouver les personnes qui pourront incarner ces projets, aussi bien dans les États africains qu'en dehors, vu que l'Afrique commerce et échange avec le monde entier. Et dans le cas, en fait, de la question économique, je pense que la France peut tout à fait se passer de maintenir le contrôle économique dans un certain nombre de situations, tant qu'elle garde le contrôle monétaire via le franc CFA.
Cette volonté de changer justement l'approche, vous la sentez aussi de la part des Africains, pas seulement des dirigeants Jean-Michel Severino, mais de la part de la société africaine, même si là aussi c'est toujours compliqué de simplifier à ce point-là. Mais...
Oui, je suis sûr que les années qui vont venir vont nous tracer un paysage très, très, très contrasté. D'un côté, comme je disais tout à l'heure, l'enrichissement du continent africain va exacerber un certain nombre d'appétits et peut-être renforcer quelques mauvaises habitudes. En tout cas, on ne va pas les mettre fin. D'un autre côté, la croissance économique africaine veut dire aussi que les ordres de grandeur deviennent tellement massifs que ni la France ni l'Europe ne sont plus à la hauteur du sujet, et que d'ailleurs la planète n'est plus à la hauteur du sujet africain. Donc d'une certaine manière, il y aura forcément une forme d'autonomisation du destin africain par le seul fait que d'ici à la fin de siècle, c'est 30% de l'humanité qui sera africaine et que ça en soi me semble important. Et puis à l'intérieur de ça, l'essor des entreprises africaines proprement dit, des PME, des start-up, un univers qui va vivre de façon complètement autonome son destin par rapport aux vieilles catégories, va aussi transformer considérablement le destin, y compris politique.
Voilà, qu'on aura peut-être davantage de facilité justement à s'extraire de ce poids historique qui est celui de la France-Afrique. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. Jean-Michel Severino, Annie Moutamba, Hamzat Boukhari Yabara et Christophe Boisbouvier. Les références de vos ouvrages respectifs, c'est comme chaque jour sur notre site franceculture.fr, site sur lequel vous pouvez réécouter cette émission et la télécharger. Demain, deuxième rendez-vous avec le Club des idées du grain. Nous reviendrons notamment sur le discours de François Hollande de ce jour à propos de la démocratie confrontée au terrorisme.